Les voix du livre. Une émission proposée par Claire Garand en compagnie d'Arthur Caillot, l'ado accro au livre, et en partenariat avec le réseau de librairies indépendantes Initial. Bonjour Arthur.
Bonjour Claire.
Eh bien ça y est, c'est la frénésie des derniers cadeaux de Noël, le casse-tête aussi un peu parfois, parce que c'est pas si facile d'offrir le cadeau qui plaira, hein. Ça c'est toujours un peu compliqué.
En effet, oui.
Heureusement, les voix du livre sont là pour vous aider en vous proposant des idées de lecture, évidemment, et de cadeaux. Mais si vous hésitez vraiment, eh bien moi je préconise, comme chaque année, le Jolabo Kaflod, oui, je ne garantis pas la prononciation, c'est de l'islandais, une très belle tradition islandaise dont j'ai déjà parlé ici et que je pratique assidûment, moi qui ne parle pas un mot de cette langue. De quoi s'agit-il ? Eh bien, dans ce pays où l'on sait ce qu'avoir froid veut dire, la tradition veut que chacun, après avoir profité d'un bon repas de Noël, se plonge chocolat chaud à la main dans l'un des nombreux livres qu'il vient de recevoir, et en famille. Et alors, on n'entend plus que les pages qui se tournent et les exclamations que suscitent les mots. C'est une... Enfin, moi, j'adore cette tradition, je trouve ça génial.
Ça a l'air d'être une belle tradition.
Ah oui, j'adore cette idée. Ça date de 1944, oui, on fait un peu d'histoire aujourd'hui, juste après l'indépendance de l'Islande qui dépendait du Danemark. Alors, ce sont bien évidemment, en 1944, des années difficiles où tout est rationné, hein, c'est un peu comme en France, mais pas le papier. Et oui, alors très vite, les livres remplacent les jouets sous le sapin. Et peu à peu, les sorties littéraires se concentrent avant la période des fêtes. Et Jolabo Kaflod, donc, ça signifie inondation de livres. Moi, j'aime vraiment ce concept. Et aujourd'hui, dès le mois de novembre, chaque foyer reçoit le Bocati d'Indi. Encore une fois, je fais ce que je peux. Donc, c'est un catalogue très épais qui répertorie les romans, les poèmes, les livres jeunesse. Tout ce qui a été publié, et à partir de ce catalogue, on élabore sa liste de livres Père Noël. C'est génial.
J'avoue, là.
Oui, on a envie de la leur piquer, celle-là.
Carrément.
Alors, moi, parmi les cadeaux que je vais offrir, il y aura Cosmogonie, la préhistoire des mythes, de Julien Duy, un essai sur l'origine paléolithique des mythes, et aussi le prix Renaudot de l'an dernier, L'histoire du fils, de Marie-Hélène Lafon, paru aux éditions Buchet-Chastel. Alors pour ceux qui connaissent Marie-Hélène Lafon, c'est un roman qui, comme toujours chez elle, hein, frappe autant par le fond de cette histoire inspirée de faits réels que par sa langue extrêmement travaillée. Et nous aurons le très grand plaisir de la recevoir aujourd'hui en deuxième partie de notre émission. C'est son 13e roman et elle nous dévoilera tout à l'heure les coulisses de la création de ce texte qui, vous le verrez, défie la chronologie avec une profonde littérarité. Alors j'espère qu'elle vous donnera envie de le lire et pourquoi pas de l'offrir. Mais notre chroniqueur Arthur est là pour vous en proposer bien d'autres, choisis avec acuité et beaucoup de particularités aussi. Et tout de suite, je laisse donc la parole à Arthur qui va nous parler d'écharpes, pas seulement.
Oui.
Mais entre autres.
Alors oui, Claire, vous commencez bien à me connaître, vous connaissez ma passion pour les dystopies.
Et certes, passion partagée.
Ouais, c'est vraiment génial comme genre littéraire. Et du coup, là, je vais vous présenter une dystopie époustouflante qui s'appelle Villa Anima. C'est une histoire qui prend place dans une société extrêmement misogyne, hiérarchisée par classe sociale, et qui ces classes sociales, elles sont représentées par des écharpes. Donc, comme vous le disiez juste avant.
Alors, c'est pas tout à fait la même écharpe que celle qu'on se met autour du cou quand on a froid.
C'est une écharpe de soie. Et donc, d'abord, il y a les sans écharpes qui sont essentiellement des femmes qui n'ont aucun droit. Et je vais vous lire un extrait du roman.
Ça commence fort,
oui. Je vais vous lire un extrait du roman qui expose les rôles de ces écharpes. Alors, une écharpe verte pour les votants, les fonctionnaires de l'État. Le vert était la couleur qui vous octroyait le droit de vote lors de l'élection du Haut Conseil, l'organe politique de la main. Instituteurs, infirmiers, secrétaires arboraient autour de leurs épaules une écharpe émeraude. Une écharpe orange pour les députés, les professeurs, les patrons et l'armée. Orange était la couleur de la force et des responsabilités. L'écharpe couleur feu, vibrante comme de l'or fondu, drapait les épaules de ceux qui faisaient preuve de foi envers l'Empire. Une écharpe bleue pour les décideurs. Le bleu était la couleur des hautes fonctions judiciaires, économiques et politiques. L'écharpe saphir se portait comme un collier d'éloge. Elle était la couronne du pouvoir. S'argentant de motifs et blasons familiaux, on l'observait sur la gorge du Haut Conseil, des ministres et ambassadeurs. Enfin venait l'écharpe rouge. Le rouge du sang et de la vie. La couleur de l'empereur.
Ouf. Mais ça n'a voilà. pas changé, ça, c'est toujours ces couleurs-là pour les couleurs impériales.
Oui. C'est ça. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une société divisée par caste. Donc, bien sûr, il est quasi impossible de gravir ces échelons de la société, parce que, alors, il y a les hommes qui héritent des écharpes de leur père, donc quand ils ont la majorité, et il y a les femmes qui sont d'office des sans-écharpes, donc qui n'ont directement aucun droit.
C'est
donc,
pratique.
C'est pratique,
comme
oui.
Comme tout est simple.
Du coup, même si elles font partie d'une bonne famille. Donc, ça montre déjà la misogynie de la société. Hein. Et dans cette société, elles sont vouées à se marier, à faire des enfants. Donc,
un classique,
en plus,
toujours efficace.
Les hommes considèrent que les femmes n'ont aucune jugeote ni intelligence. Et on va le voir aussi dans l'extrait que je vais vous lire.
Où on voit que les femmes n'ont pas de jugeote ni d'intelligence.
On va voir comment elles sont considérées quoi, par la société.
Allons-y, j'ai peur.
Alors, être femme dans un monde gouverné par la main signifiait ne pas être libre. Dans les écrits de la main, la conception d'un bébé apportait bonheur et prospérité. L'apanage de la femme était d'incarner dans son propre corps le réceptacle de la vie et de participer au repeuplement d'un pays ravagé par la guerre. Ainsi disaient les dogmes de la main. Donc on peut le voir, il y a ici un rôle assez traditionnel des femmes et assez misogyne. Donc même très misogyne.
Oui, voilà.
Donc cependant, il y a un moyen de franchir ces paliers de la société, même pour les femmes.
Même pour les femmes.
Même pour les femmes. Incroyable. Du coup, c'est les épreuves de la Villa Anima qui sont des épreuves réputées pour être extrêmement difficiles. Alors on peut d'abord acquérir l'écharpe verte. Puis acquérir l'écharpe orange, bleue, jusqu'à la rouge. Sauf qu'à chaque fois qu'on passe ces épreuves, on remet en question sa propre écharpe. En gros, si on veut passer l'écharpe orange, bah, on doit remettre en question la verte au risque de la perte si on perd l'épreuve de la orange.
Ah oui, c'est voilà. Très dissuasif.
Exactement.
Et qu'est-ce qu'on fait donc dans cette ville-là, Anima pour...
Eh ben, on participe à des épreuves qui sont des épreuves de logique, d'esprit. Mais en fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est ces épreuves. Parce que déjà, on n'en parle pas beaucoup. Elles sont réputées très dangereuses, donc presque personne n'y participe et il y a un secret autour de ces épreuves. On doit signer un pacte de confidentialité lorsqu'on y participe. Donc il y a tout un secret derrière ces épreuves.
C'est
et
très louche.
Justement, ouais, c'est ça. Et Magdalene, qui est une jeune fille au caractère rebelle, elle veut y participer, coûte que coûte. Alors déjà, premièrement, pour obtenir le droit d'avorter, parce que il n'y a pas trop de moyens de contraception dans leur société, et elle est enceinte à 16 ans, donc elle aimerait bien avorter, sauf qu'il faut qu'elle ait l'écharpe verte pour avorter. Et de deux, elle aimerait bien y participer, parce que si l'occasion se présente, elle aimerait changer cette société.
Il va falloir qu'elle atteigne
l'écharpe rouge.
Voilà.
Et ce qui risque d'être très compliqué. Voilà, bon, donc tout est excellent dans ce roman. Moi, j'ai beaucoup aimé le côté dystopique qui exprime la force et l'intelligence de la femme d'une manière assez étrange, puisqu'en fait, elle met en scène une société misogyne pour mettre en exergue l'importance de la femme. Donc, c'est vraiment bien construit, je trouve. Ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi Magda, qui est une jeune femme assez badass. Elle l'incarne. On
carrément.
Aime bien ce mot. Ouais,
okay.
Carrément. Elle incarne en fait d'une belle manière l'importance de la persévérance et de l'ambition. Donc en fait, derrière elle, il y a un assez beau message, il faut oser et avoir confiance en soi. Et ce qui est assez marrant avec Magda, c'est qu'au début du roman, c'est une jeune fille assez timide, qui ose rien. Et comme c'est un roman d'apprentissage, elle va beaucoup évoluer jusqu'à la fin. Bon, je vous dis rien. Hein,
ah bah non.
Mais,
on veut lire
si
le texte.
Mais si vous saviez...
On serait impressionné.
Exactement. En plus, je trouve que l'autrice, elle maîtrise vraiment, vraiment bien le suspense et la montée en tension. En fait, elle crée des épreuves de plus en plus difficiles, et il y a une montée en tension à chaque page, et ça crée un final vraiment explosif.
Oui, surtout que le fait de remettre à chaque fois son
écharpe
précédente en jeu, c'est ça.
On a les mains qui tremblent.
Voilà, oui, ça met très très haut les enjeux pour le personnage, parce
Exactement.
Qu'elle peut tout perdre. Plus elle monte,
tout à fait.
Plus elle a à perdre.
Et puis en plus, elle aime bien le suspense et les coups d'éclat.
Oh, et dis donc, ça promet. Hein.
Ah oui, vraiment. En plus, je trouve qu'elle a une bonne imagination parce que c'est un thème assez classique quand même, les castes, les épreuves pour franchir ces castes de la société. Mais je trouve que les épreuves, elles ont quelque chose d'assez inédit. Et je vous en dis pas plus parce que sinon je vais vous spoiler. Donc,
bah oui, non, pas
donc
de
il faut que vous le lisiez. Ça c'est pas du tout comme Hunger Games. Hein. Parce que Hunger Games, c'est un peu dans le même style, caste, épreuve pour franchir les castes. Mais vraiment, les épreuves sont inédites. Voilà, donc je vais vous lire un dernier petit extrait pour vous donner envie et pour vous montrer un peu le caractère de Magdalene. Magda rêvait de révolution. Pas une révolution par les armes ni les manifestations, une révolution par la parole et la prise de pouvoir interne. Pour être entendue, elle devait atteindre le plus haut degré de l'échelle sociale.
Tout un programme.
Voilà, tout un programme, exactement. Bon, bah, j'espère que je vous aurai convaincu d'entrer dans cette ville-là, Anima.
Je suis assez rêveuse. En plus, bon, pour les auditeurs, je vois la couverture là en face de moi, où on voit des personnages qui montent un escalier sous la surveillance un petit peu austère et peut-être légèrement avec un peu d'animosité.
De statues.
Voilà, de statues qui on rappelle un petit peu les empereurs romains.
Exactement.
Et ça n'a pas l'air facile de grimper cet escalier sur fond rouge. Donc, ça donne vraiment envie de découvrir le texte, de découvrir le personnage.
En plus, l'écriture, elle est vraiment élaborée. Hein. C'est du vocabulaire cherché. Hein. Et j'aime bien. Parce que
ça donne de la profondeur, peut-être.
C'est ça. C'est très profond comme roman. Et il y a beaucoup d'implicites. Et j'aime bien l'implicite.
Ah bah, l'implicite, ça donne tout de suite un peu d'épaisseur. Hein.
C'est ça. Donc, j'espère que je vous aurai convaincu. Et si vous n'êtes pas tout à fait convaincu, je vous propose en ce dernier jour, avant dernier jour, je sais plus, avant les fêtes de Noël, de vous reposer sur des incontournables de la littérature jeunesse, notamment les textes de Mario de Muraille que j'aime particulièrement, notamment Sauveur et Fils par exemple, ou Maïté Coiffure, Simple. Ce sont des très très beaux romans qui sont des valeurs sûres et que tout le monde adorera, aussi bien les petits que les grands.
Ah bah moi je suis tout à fait d'accord, Mario de Muraille c'est toujours un plaisir et même quand on les relit, on y retrouve encore autre chose.
Exactement, tout le temps.
Donc allons-y. Et ben merci beaucoup Arthur pour ces suggestions et pour ceux qui veulent faire un Joe la Boca Flood de choc, j'invite les auditeurs à aller consulter tes comptes Facebook et Instagram, l'ado accro au livre, sur lesquels ils trouveront largement assez de suggestions, je crois.
Il y a un gros panel de romans.
Il doit y en avoir 500, je crois.
Un peu plus de
500. Donc ça va, il y a déjà de quoi faire une belle inondation. Et pour davantage de propositions adultes, on va dire, eh bien, je vous invite à lire le dernier numéro du magazine des librairies indépendantes initiales qui vient de sortir et que vous retrouverez chez votre libraire, chez les libraires affiliés au réseau initial et qui regorge alors de livres en tout genre, sélectionnés avec soin et amour par des libraires qui vraiment aiment lire et qui ont tous un point commun. Ils ont envie de vous faire vibrer et croyez-moi, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Voilà, et en avant-goût de l'interview de Marie-Hélène Lafont, eh bien écoutez, moi je vous propose d'entendre le premier morceau qu'elle a choisi pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance avec Alain Bachung.
Des berlines, on devine des monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux livrés à eux. Ils font des petits, ils font des ennuyeux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de ce drap, à qui sourit la vie. Marchez sur l'eau, évitez les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Usez le sourire, usez l'usurier, soyez ma muse. Que ne dure que les moments doux, dure que les moments doux. aching to do. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Mais rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie. Osez, osez. Joséphine, osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie.
Vous écoutez Les Voix du Livre. C'était Osez, Joséphine d'Alain Bachung, le premier choix de notre invité. Marie-Hélène Lafont, l'auteur de Histoire du Fils, paru aux éditions Buchet-Chastel, que nous avons eu le plaisir d'interviewer lors de sa venue à la librairie Le Cyprès Jean de la Lune le 30 novembre dernier. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Marie-Hélène, vous êtes écrivain, auteur de 13 romans et de nouvelles. Vous avez reçu de nombreux prix, pour n'en citer que quelques-uns, parce qu'il y en a beaucoup. Eh bien, le Renaudot des lycéens en 2001, le Goncourt de la Nouvelle en 2016, le Grand Prix de la littérature de la SGDL, et en 2020, justement, pour Histoire du Fils, le prix Renaudot. Alors, l'histoire du fils, c'est un sujet, enfin, ce livre aborde un sujet complexe, hein, vaste, qui est empreint dans votre texte d'une profonde humanité, qui fait la part belle aussi aux faiblesses comme aux forces des hommes et des femmes. C'est l'histoire d'une famille du Cantal, hein, qui commence par un drame, on peut le dire, et qui ouvre le roman. Et le roman recoupe, si l'on peut dire, les morceaux d'un secret et d'une filiation rompue, et toujours tout en nuances. Alors c'est un sujet sensible, justement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'aborder?
C'est en fait, comme tous mes autres livres, hein, Histoire du Fils, c'est un texte qui est entièrement nourri par le réel, qui m'a été fourni par le réel, cette histoire du fils. Je ne l'invente pas, je n'invente rien, ni ce que vous appelez le drame initial, ni ensuite cette histoire de filiation refusée, finalement. Hein. Oui. On a là, en 1924, la naissance d'un enfant qui se prénomme André. Il est né de père inconnu. Sa mère a 37 ans. Elle est donc fille-mère en 1924, hein, oui. Ce qui n'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Elle est infirmière de profession. Elle vit à Paris quand l'enfant naît. Et elle fait ce choix très singulier de le confier pour son éducation à sa propre sœur, surpuinée, qui a une vie extrêmement différente de la sienne, puisque la sœur en question vit, elle, de manière beaucoup plus traditionnelle à cette époque-là, pour une femme, hein, elle est mère au foyer, elle élève ses trois filles, elle a un mari qui travaille, et tout ce monde-là habite Figeac, dans le Lot. Et donc cet enfant, né de père inconnu, va grandir chez sa tante, avec son oncle, sachant pertinemment qu'ils ne sont que sa tante et son oncle. Il n'y a pas de mensonge. Il y a un inconnu, à savoir le père, mais il n'y a pas de mensonge, et il va grandir dans une famille très heureuse, hein, dans une maison heureuse, avec ses trois cousines, qui sont ses cousines sœurs, ou ses cousines fleurs, c'est ainsi qu'il les appelle. Cet enfant se prénomme André, et il restera fils de père inconnu, et ce livre déploie sur 100 ans, d'une façon qui n'est absolument pas chronologique.
Tout à fait.
Il déploie les différentes facettes, hein, de cette identité-là, à savoir née de père inconnu.
Alors justement, comme vous venez de le dire, ça n'est pas du tout chronologique, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, il y a plus qu'une vie, il y a la vie et tout ce qui y est autour, n'est pas du tout racontée de manière linéaire, puisque vous liez des points de vue. Et vous liez des temporalités. Donc il faut d'ailleurs être très attentif. Il y a des rappels, comme ça on sait qui est qui, parce que c'est vu par quelqu'un d'autre. Donc avec beaucoup d'analepses, de prolepses, des ellipses, enfin, il faut suivre.
Et c'est un petit peu un jeu d'ailleurs, j'imagine pour vous aussi.
C'est comme un jeu de piste.
Voilà, c'est tout à fait ça, c'est comme un jeu de piste. Et vous avez donc choisi cette forme éclatée. Qu'est-ce qui a guidé ce choix? Parce que c'est quand même pas un choix courant.
C'est pas tout à fait un choix non plus en fait. De la même façon que l'histoire m'est tombée dessus, puisqu'elle est arrivée, elle s'est vraiment produite cette histoire de famille, comme il en arrive toujours, des histoires dans les familles. Elle s'est produite dans une famille amie qui me l'a confiée et racontée pour que je l'écrive. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand j'ai ouvert le chantier de ce livre, qui est devenu ce livre, donc, eh bien, ça s'est tout naturellement imposé comme ça. C'est-à-dire de raconter par tableau, et des tableaux qui n'ont pas été chronologiques, dès le premier G. J'ai essayé ensuite de rétablir un ordre chronologique. J'ai très rapidement abandonné cette tentative parce qu'il était évident que ça ne tenait pas debout si c'était raconté chronologiquement. C'est l'architecture narrative de ce livre, elle repose sur la tension que crée ce va-et-vient dans le siècle, entre 1919, 1945, retour en 1924, 1984.
Au début, ça surprend.
Ah, mais c'est surprenant et je savais parfaitement que ça allait mettre le lecteur en tension. C'est pas fait pour ça, hein, mais je connais suffisamment les stratégies narratives pour savoir que ça demande, de la part du lecteur, une tension et une attention. Et en fait, tous mes livres, hein, demandent au lecteur une tension et une attention parce que je déploie très peu. Il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, il y a beaucoup d'implicites.
Niveau d'éclatement de la chronologie, c'était quand même un petit peu
mais
différent.
J'ai la chance d'avoir des lecteurs qui non seulement qui suivent, mais même qui précèdent. Et qui, pourquoi pas, après tout, font, ils me les ont souvent montré d'ailleurs, les lecteurs, des arbres généalogiques. Un pour chaque famille, avec des repères temporels, ce qui permet en effet de s'y retrouver. Et en principe, jusqu'à présent, on ne m'a pas signalé d'incongruité. C'est-à-dire que moi-même, je ne me suis pas égarée dans mon propre labyrinthe.
Vous aviez fait vous-même des arbres généalogiques?
Non, je n'ai pas fait d'arbres généalogiques, mais en revanche, ça, je n'ai pas besoin de faire d'arbres généalogiques, mais en revanche, je suis extrêmement attentive quand je retravaille, et je retravaille énormément le premier jet, bien sûr, hein, je suis très, 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 très attentive à la cohérence chronologique, évidemment, hein. Il ne faut pas que les personnages qui sont nés en 1924 aient 14 ans en 1936. Non, ils en ont 12. Enfin bon, vous voyez, là, j'exagère. Mais... Donc là, il y a vraiment un travail de mise au point, de minutie, vous voyez, de rigueur dans le travail de chantier.
Ça, oui, sans doute que c'est encore plus nécessaire d'avoir cette rigueur quand on a une narration éclatée comme celle que vous avez choisie.
Alors, il faut cette rigueur-là. Et puis, bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, il faut semer des indices dans le texte pour que ça soit intelligible, parce qu'il ne s'agit pas de livrer, si vous voulez, un embrouille à mini narratif complètement incompréhensible, évidemment, ça c'est pas du travail. Il faut que ça soit intelligible.
Quand vous parlez du travail que vous réalisez sur ce roman et sur les précédents, vous parlez justement du travail, comme on a l'impression que pour vous c'est vraiment quelque chose qui relève aussi en partie de la technique, de l'artisanat.
Oui, bien sûr, c'est pour ça que j'appelle ça les chantiers, hein, évidemment. Oui, il y a évidemment qu'il y a c'est un travail de création, évidemment, mais je suis tout à fait persuadée depuis le début, hein, que le travail de création va avec, en ce qui me concerne en tout cas, ce que j'appelle moi le travail du verbe. Je dis que je suis une travailleuse du verbe. Mon affaire, c'est la langue, et il faut que la langue soit suffisamment précise, soit suffisamment maîtrisée pour que le texte, au fond, tout en étant complexe, soit fluide. Voilà. Ça relève d'un travail que je qualifierais volontiers d'artisanal, en effet.
Alors, justement, dans ce roman, la langue est, comme toujours chez vous, très travaillée, très dense, mais je dirais qu'elle est même encore davantage que dans certains autres. Je pense, par exemple, à un roman, je crois que c'est il doit dater de 2014, c'est Joseph, je pense.
C'est 2014.
Oui, c'est 2014. Et dans Joseph, la langue est également très travaillée et peut-être un peu moins dense que dans celui-là. Est-ce que pour ce roman-là, vous avez travaillé votre style différemment?
C'est-à-dire que pour ce roman-là, j'avais énormément de matière. L'histoire telle que le réel me l'avait fournie était tellement rocambolesque, tellement échevelée, avec des moments tellement ahurissants, comme le réel en fournit tout le temps. Hein. Beaucoup plus imaginatif le réel que je ne le serais jamais moi. donc j'avais une telle un matériau tellement foisonnant que ça imposait un travail à la fois très serré de la langue, et en même temps il me semblait que à cette histoire là il fallait donner, si vous voulez, une langue peut-être moins dépouillée que celle de Joseph. Joseph, oui, c'est vraiment dépouillée. À l'os. Oui. Joseph, c'est l'histoire d'un ouvrier agricole. C'est une vie de rien, une vie de peu, une vie émaciée.
C'est très, très
puissant. C'est pas d'ailleurs. Du tout une dynastie familiale. Hein. Joseph, il n'a pas fait famille. Hein. Il a rien, il a plus rien derrière lui et pas grand-chose devant non plus. Il se finit dans une ferme en attendant la maison de retraite dans une montagne. Hein, où il aura enfin une chambre avec son nom sur la porte, et ça lui paraît bien. Il aura chaud, ça sera propre. Oui. Voilà Joseph, donc c'est très nu, vous voyez, mm-hmm. Et la langue respire cette nudité. Ce récit-là est moins nu.
Oui, et très dense, nu. peut-être qu'il respire moins aussi d'ailleurs.
Mmh. Et oui, alors il y a quelque chose, comme souvent dans les histoires de famille d'ailleurs, hein, quelque chose de peut-être d'un peu carcéral. On parle bien de cellules familiales.
Tout à fait, oui. Oui, c'est exactement le sentiment qu'on éprouve, une espèce d'étouffement, justement, dans la langue, dans le verbe. C'est pour ça qu'en tant que travailleuse du verbe, je pensais bien qu'il y avait plus qu'un lien entre les deux. Alors, vous disiez tout à l'heure que le réel vous apportait des péripéties plus rocambolesques que celles que vous auriez imaginées. Est-ce que pour autant, pour vous, travailler le réel, c'est complètement différent de travailler la fiction ? Qu'est-ce qui vous intéresse plus dans le réel que dans la fiction ?
Ben, au fond, moi, je ne fais pas tellement de distinction de cette façon-là. Je dis toujours, et je crois que c'est vrai pour ce livre-là aussi, je n'invente rien, mais je réinvente tout. Donc je fictionne le réel. C'est-à-dire que je pars du réel, mais je décale tout. Tout, absolument tout, pour éviter les effets de reconnaissance. C'est vraiment une stratégie, là, pour le coup, narrative, vous voyez. Donc, je réinvente. Ma part fiction, elle est dans le préfixe. Elle tient en deux lettres. Je réinvente, je n'invente pas. C'est le réel qui invente pour moi, qui me fournit un matériau, là, encore une fois, pour ce livre-là, très, très foisonnant. Et à moi de retravailler ce matériau en décalant, en changeant les noms de lieux, les noms de personnes, les corps, vous voyez. Établissant des variations sur les situations, voilà, ça c'est mon travail de fiction. Voilà, mais vous voyez, la marge de fiction, elle est à la fois présente et en même temps, elle est très étroite. Elle est très étroite.
Et
il n'y a pas d'autre part de fiction chez moi. La part de la fiction chez moi, elle est, enfin dans les livres que j'ai écrits jusqu'à présent, en tout cas, elle est présente, si vous voulez, mais elle est essentielle. Et en même temps, elle est ténue.
Et justement, qu'est-ce qui, dans cette histoire réelle, a attiré votre attention ? Parce qu'il y a plein d'histoires réelles qui arrivent.
Oui, d'abord, on me l'a confié. On m'a dit, tu vas nous la raconter, déjà.
Donc, c'était une commande, entre guillemets.
D'une part. Et d'autre part, c'est une histoire de filiation. Et la question de la filiation traverse absolument tous mes livres.
Tout à fait.
Donc, c'était... J'ai presque envie de vous dire, le réel a bien fait le travail, c'est bien tombé, quoi. C'était vrai que c'était une histoire pour moi. D'ailleurs, ceux qui me l'ont confié, qui me connaissent extrêmement bien, qui me lisent depuis toujours et qui me connaissent depuis que j'ai 12 ans, savaient pertinemment que c'était une histoire pour moi.
C'est pour ça qu'on vous la propose.
Notamment.
Alors, je vous propose de faire une deuxième pause musicale en écoutant votre deuxième titre, donc les Rolling Stones, Sympathies for the Devil. On écoute.
You change, killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you, hope you guess my name. Oh yeah, I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah, I watched with glee while you kings and queens fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? When after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours who get killed before they reach Bombay.
Vous êtes bien de retour sur Bach FM. C'était Sympathies for the Devil des Rolling Stones, le deuxième choix musical de notre invitée Marie-Hélène Lafont, auteure du roman Histoire du Fils, publié aux éditions Buchet-Chastel et lauréat du prestigieux prix Renaudot. Donc, pourquoi avoir choisi ce titre musical ?
Ah, parce que les Rolling Stones, c'est vraiment une très très vieille histoire entre eux et moi. C'est presque une histoire de famille, on va dire. Je suis pas la seule, hein, c'est générationnel. J'ai dû commencer à les écouter quand j'étais en cinquième. C'est ma sœur qui avait 2 ans de plus que moi qui me les a fait découvrir. Et je les ai vus en concert, moi qui ai horreur de la foule. C'est un des rares groupes que je sois allée voir en concert. J'ai une vieille dévotion totalement... carabiné et indéfectible pour Mick Jagger. J'étais très émue de la mort de Charlie Watts. Enfin bon, voilà, je suis groupie, quoi. Bon, donc j'aime énormément cette chanson. Je trouve qu'elle a un chien pas possible. Puis je voyais rien qu'à vous dire le titre, j'entends la voix de Jagger et ça dégaine, quoi. Voilà. J'ai beaucoup écrit ici et là. Hein. Jagger est présent dans nombre de mes livres. Ecce Homo, quoi. C'est vraiment l'apparition du mal. Sa splendeur indéfectible, puisqu'à 78 ans, je crois bientôt, mon Dieu, il va être octogénaire, et il est toujours aussi dément. Voilà.
Est-ce que la musique vous inspire quand vous écrivez ou entre des périodes d'écriture?
Alors, la musique, pour le coup, certaines musiques sont ce que je pourrais presque appeler d'un terme un peu technique, des musiques de préchauffage, c'est-à-dire ça me met en situation. Ça me met en état de tension d'écriture. Et c'est plutôt assez inlassablement Bach, en fait. C'est plutôt de la musique classique. C'est plutôt, c'est plutôt, je sais pas, moi, les variations Goldberg, ça m'affûte. J'écoute pas de musique quand j'écris. J'en écoute entre, éventuellement. Voilà. Et je peux prendre beaucoup de plaisir à écouter, donc, Bachou ou les Rolling Stones. Mais vraiment, la musique qui va, c'est ça. Aiguiser, affûter les outils entre deux séances de travail, affûter la personne, affûter l'être, c'est Bach, Schubert, Bach, Schubert.
Ça vous place dans certaines dispositions.
Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. C'est ce que j'appelle affûter.
Dans ce roman, dans l'histoire du fils. Ouais. Alors, on retrouve bien évidemment des sons, mais d'une manière générale, il y a une attention quand même très forte qui est accordée au sens. La scène d'ouverture, mais pas seulement, mais c'est, disons qu'elle est, comme on rentre tout de suite par elle dans le roman, les odeurs, les craquements, tout est toujours très, à la fois sensoriel et même sensuel. Pour quelle raison attachez-vous autant d'importance à cette sensualité du texte ?
Sensualité, sensorialité, quelque chose de sensuel et de charnel, parce que pour moi l'écriture c'est une affaire d'incarnation, le verbe se fait chair, donc il faut incarner le monde, et pour incarner le monde, ça passe par les sens, les 5 répertoriés, tous les autres qui n'ont pas de nom. Et c'est vrai dans ce livre-là, de manière peut-être plus explicite, pour le registre olfactif par exemple, mais c'est vrai dans tous mes livres. Je voudrais écrire, moi, en odeur, en son, en couleur. J'aimais être peintre, vous voyez. Donc, je dispose de la langue pour incarner le monde. Eh bien, il faut que la lecture soit une expérience sensorielle. Qu'on n'en sorte pas tout à fait comme on y est entré. Et que quelque chose de la splendeur ou de l'horreur, de la rugosité, des sensations du monde telles qu'il nous traverse soit perceptible dans le texte. Donc,
une forme d'art total.
Oui, ça serait très ambitieux, mais ça pourrait incarner le monde, c'est de l'art total.
Vous souhaitez tendre vers cet art total.
Oui, tension vers, vous avez raison.
Alors, le choix d'un titre est toujours un petit peu complexe pour un roman, étant donné qu'il se passe énormément d'événements dans celui-ci. Est-ce qu'il a été difficile à trouver,
non,
ou est-ce qu'au contraire...
J'ai été aidée, c'est ma sœur. Ah. Quand on m'a confié cette histoire, c'était en 2012, et ma sœur qui a été témoin aussi de cette histoire de famille qui se déroulait, alors témoin un peu plus éloigné que moi, mais témoin quand même, m'a dit, si tu écris cette histoire, là, si tu l'écris, tu l'intituleras Histoire du Fils. Et elle avait raison, c'était parfait. Donc j'avais le titre bien avant d'ouvrir le chantier, des années avant.
Et est-ce que ce titre vous a guidé dans l'écriture?
Non. Non. Non, 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 non. Non, non, et le titre, il est vraiment là, pour le coup, ça arrive d'avoir des doutes, parce que dans un moment, pour le titre, etc. J'aime pas ça, d'ailleurs, c'est très inconfortable. Mais là, le titre, il était tel. Voilà, il était à sa place, quoi. Il était juste, il sonnait juste. Et alors, peut-être au fond, que le fait que le titre mette en évidence le fils, ce fils de père inconnu, m'a davantage poussé à mettre en évidence de façon récurrente le point de vue du fils, même s'il y en a d'autres, des points de vue. Mais il est, lui, un des vecteurs narratifs principaux du livre. Un des foyers, comme on parle de foyer visuel, un des foyers principaux, foyers narratifs principaux du livre. Oui.
Alors, ce roman était votre 13e roman.
Peut-être que oui, si vous le dites.
oui, alors j'ai compté.
Vous avez raison.
Mais aujourd'hui, donc, vous l'avez publié en 2020, vous avez eu connaissance de l'histoire en 2012. Donc on peut imaginer que vous avez d'autres projets. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre actualité ou c'est encore trop mouvant?
C'est-à-dire que j'ai un chantier en cours, hein, j'en ai toujours plusieurs, des courts, des longs. J'ai un chantier en cours pour un livre dont j'espère qu'il sera prêt pour 2023. Je publie toujours, enfin, ça fait pas mal de temps maintenant que je publie tous les 3 ans à peu près, pas plus. C'est largement suffisant. Surtout, en fait, je plaisante, ce qui commande, c'est on publie un livre quand il est prêt. Voilà, c'est tout. Donc, voilà. Et donc, moi, je suis professeur, hein, je suis professeur à temps complet, etc. Donc, j'accompagne aussi beaucoup mes livres parce que j'aime beaucoup ça. Donc le temps de l'écriture est toujours arraché à l'ordre des choses. Et je pense que le chantier que j'ai en cours actuellement pourra peut-être être prêt pour une publication en 2023. Voilà, et c'est vraiment un chantier encore assez hirsute. Je dirais ça comme ça.
Il va falloir tailler.
Voilà, tailler, agencer, voilà, ça c'est mon travail.
Et donc pour bien tailler, il faut affûter vos outils, comme voilà, vous nous l'expliquiez tout à l'heure.
C'était l'interview de Marie-Hélène Lafont à la librairie Le Cyprès Jean de la Lune. Et je remercie notre chroniqueur Arthur Caillot, l'ado accro au livre, pour ses suggestions.
Avec plaisir.
Et si vous souhaitez nous dire ce que vous avez pensé de ces livres et de l'émission, eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer un message à l'adresse claire@memorialiste.fr. C'était une émission réalisée et montée par Laetitia Durieux et proposée par Claire Garand. Et je souhaite à tous les auditeurs de très belles fêtes de fin d'année et à bientôt pour de nouvelles aventures livresques.